des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. Ce sera pour moi la dernière de la saison. Vous en faites pas, je vais revenir au mois d'août. Et sur un plateau d'argent, cette histoire de Mary Simon, ses repas dans les airs qui coûtaient 200 $ chacun. 200 $ pour des croissants. Je peux pas m'empêcher de pousser un estomaqué. Ben voyons donc!
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
On est le 17 juin, très bientôt, ça va être le 1er juillet, jour de déménagement traditionnellement au Québec. Et cette année, particulièrement, ça va être difficile. Beaucoup de problèmes avec le droit de location. Et il y a un problème avec les locataires parce que, donc, ceux qui louent des logements à des locataires, parce qu'il y a très peu de recours et c'est très difficile quand on est un locataire de faire valoir ses droits. Vous me direz, les locataires aussi trouvent qu'ils ont très peu de moyens pour faire valoir leurs droits. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux droits des locataires. Pourquoi? Parce qu'il y a une lettre ouverte qui est publiée dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec. Elle est écrite, cette lettre, par Élise Lévesque. Elle est enseignante de droit au collégial. Elle est aussi candidate pour Québec solidaire dans l'Acadie. Bonjour, Madame Lévesque.
Bonjour, Madame Durocher. Merci de me recevoir aujourd'hui.
Ben, ça me fait plaisir parce que, évidemment, à l'approche du 1er juillet, il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous, dans votre lettre, c'est donc les propriétaires qui sont un peu votre cible parce que vous considérez que, comme locataire, on n'est pas suffisamment protégé. Pourquoi? D'un point de vue juridique, hein, puisque vous enseignez le droit au collégial, dans quelle mesure le bas blesse?
Ben, le premier constat, ça serait que le rapport de force entre les très grands propriétaires, les grands promoteurs immobiliers et les locataires est vraiment déséquilibré actuellement. Donc, on a un marché qui est saturé, hein. On vit une crise du logement en ce moment au Québec, pas seulement à Montréal, mais au Québec en général. Là, on a des taux d'inoccupation à Sherbrooke ou à Rouyn-Noranda qui sont autour du 1 %. Alors, c'est très bas. Il y a très peu de marchés à louer, de logements à louer. Et donc, ça fait que les propriétaires ont le gros bout du bâton. C'est un défi de faire valoir ses droits devant un propriétaire qui a ce grand bout du bâton-là. Quand le propriétaire arrive pour dire « Ah ben, je vais augmenter ton loyer » ou « Ah ben, j'aimerais reprendre mon logement parce que c'est ci, cela », les gens ne savent pas nécessairement vers qui se tourner, comment faire. Et donc, le constat, c'est que le système de protection des locataires, il n'est pas efficace en ce moment. Dans le sens que le droit québécois prévoit à la base que le locataire doit être protégé. Donc, c'est ça notre prémisse dans le droit du logement, c'est que le locataire a droit au maintien dans les lieux. Puis c'est logique si on voit le logement comme un besoin. T'sais, le logement, tout le monde a besoin d'un logement, là, on va s'entendre là-dessus. On a besoin d'un toit au-dessus de notre tête, mais c'est plus que ça, le logement. C'est une nécessité pour la santé physique, pour la santé mentale, pour la sécurité de la personne. Et donc, c'est beaucoup plus que simplement un bien de spéculation là, pour faire des profits. Ouais. Donc, c'est un peu ça la prémisse là, de l'histoire. Puis, quand ces locataires-là arrivent pour faire des recours devant le tribunal administratif du logement, par exemple, pour dire, ben écoutez, là, mon propriétaire veut m'augmenter de 100 $, puis je suis pas d'accord. c'est le locataire qui doit faire les démarches. Donc, toute l'introduction de l'instance, la preuve doit être faite par le locataire et c'est un système qui est particulièrement opaque pour les gens qui ne sont pas initiés au droit.
Oui, ça c'est important. Ça c'est important parce qu'il y a tout un travail aussi de pédagogie qu'on doit faire dans, devant le tribunal administratif. Les gens souvent, la plupart du temps, se représentent seuls. Ben, ça, de toute façon, ça ne vaut pas la peine de prendre un avocat. Parfois, on n'en a tout simplement pas les moyens. Ça. Puis aussi parce que les sommes à aller chercher, il n'y a pas un avocat qui va dire, ça vaut la peine de se déplacer pour ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que si le citoyen se représente lui-même, il n'a pas, lui, toutes les connaissances des finesses de la loi. Et c'est là qu'on se retrouve un petit peu dans une situation de David contre Goliath, Mme Lévesque.
Oui, exactement. En fait, les litiges en bas de 15 000 $ au tribunal administratif du logement, on doit se représenter seul. Donc, c'est obligatoire. C'est comme on dit créance. Donc, ça, c'est une chose. Et heureusement, parce que je verrais mal quelqu'un qui essaie de contester une hausse de loyer pour 400 $ devant des grands promoteurs immobiliers qui ont des grands avocats qui payent très, très, très cher. Donc, oui, en effet, c'est tout à fait David contre Goliath. Puis moi, je le vois dans mes cours de droit, je vois mes étudiants, là, on ouvre des lois au début de session, puis ils font comment, mon Dieu? Qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est écrit? C'est extrêmement difficile à comprendre, les lois. Puis, tu sais, on a des organismes extraordinaires qui font de la vulgarisation juridique dans les centres de justice de proximité, dans les comités logements, dans les associations de locataires. Ces gens-là font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont et le tribunal administratif du logement aussi fait ce qu'il peut avec les ressources qu'il a. Toutefois, est-ce qu'on pourrait pas chercher une façon d'utiliser le droit pour que justement ce fardeau-là d'introduire l'instance, de faire la preuve, ne repose pas sur des gens qui sont non initiés au droit? Donc oui, évidemment, il y a d'abord un gros travail de vulgarisation juridique à faire. Il y a un courant, d'ailleurs, là, en droit qui s'appelle le courant du langage clair. Là. Donc, il y a des juges qui s'efforcent d'utiliser un langage plus compréhensible pour les gens. Parce que quand on arrive à un jugement, on fait toute notre cause, on arrive au jugement, et là, le juge écrit notre jugement dans un langage qu'on comprend pas du tout. C'est pas très satisfaisant pour le justiciable. Donc, il y a ce courant-là, mais malheureusement, on va s'entendre, c'est pas tous les juges et les avocats là, qui sont de ce courant. Donc, oui, moi, il faudrait vraiment vulgariser, mais simplifier peut-être le droit ou encore, comme je le disais dans ma lettre, aller vers des mécanismes qui existent en droit, qui se tournent pas vers le droit civil, mais plutôt vers le droit pénal. Et là, le fardeau d'introduire ces recours-là repose sur l'État. Parce que c'est comme quelqu'un qui donne une contravention, là, une police, un policier, un agent de la paix qui donne une contravention à quelqu'un qui fait un excès de vitesse, la personne peut contester, mais c'est juste, on considère qu'il y a eu infraction à la loi, on vous remet un constat d'infraction, et puis il n'y a pas tout le processus d'introduction de l'instance sur le fardeau du justiciable.
Mais ce que vous proposez à ce moment-là, Mme Lévesque, c'est quoi? Ce serait qu'il y ait une sorte de police des propriétaires ou de police des locataires, ou un petit peu sous le modèle de l'OQLF. Mm-hmm. L'OQLF va agir si un citoyen porte plainte. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, on pourrait porter plainte à cette espèce de police ou d'organisme de régulation. Et ce serait eux, à ce moment-là, de poursuivre?
En fait, moi, je pose des questions. J'ai mis donc quelques comparaisons des lois qui existent, donc de systèmes qui existent dans d'autres lois. Donc, exact, dans l'OQLF, on a des inspecteurs qui vont aller voir si la charte de la langue française est respectée, par exemple, dans l'affichage des commerces. Et là, si on voit qu'il y a une contravention, ça va être inscrit. Donc, on a un registre pour voir qui est en contravention. Ensuite, l'OQLF peut envoyer des mises en demeure. Et ensuite, peut mandater le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, pour introduire donc la poursuite. Donc ça, c'est l'OQLF. Si on regarde aussi la loi sur la protection du consommateur, il y a des très bonnes protections pour les consommateurs qui ont été créées là, par l'Office de protection du consommateur, par la loi sur la protection du consommateur. Donc, eux aussi ont un système de plainte, donc ils répertorient, et on peut voir là, qui un peu est délinquant. Eux ne sont pas, donc vont pas introduire de poursuite, sauf si l'intérêt public est en jeu. Donc ça aussi c'est intéressant. On se dit, ben il y a quelqu'un de vraiment délinquant sur un point. Ben on va prendre le gouvernement ou l'État, l'instance publique va prendre la responsabilité de poursuivre les plus grands délinquants. Alors, c'est des systèmes qui fonctionnent. Vous me parliez de la police de l'immobilier, mais en fait, j'évoquais là, l'idée de la police parce que, si vous voulez, les constats d'infraction pour accès de vitesse, c'est la loi sur la sécurité publique qui est responsable d'appliquer ça, tout simplement. Donc, c'est la police. Hein? Donc, les lois vont dire, ben telle instance publique est responsable d'appliquer telle loi.
Je comprends.
Ouais, voilà.
Mais ce que je retiens, parce que le temps nous manque, malheureusement, Mme Lévesque, oui. Ce que je retiens, c'est que dans l'état actuel des choses, il y a vraiment un déséquilibre des forces, donc un individu qui est obligé de se représenter lui-même, qui ne maîtrise pas déjà le vocabulaire juridique, qui ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de certaines lois, donc un meilleur accompagnement, une clarification des lois et du vocabulaire et surtout un rééquilibrage des forces, c'est ce que vous proposez. Une lettre vraiment très intéressante que j'encourage tout le monde à lire, en particulier les gens dans le domaine juridique, pour justement peut-être s'en inspirer. Élise Lévesque, vous êtes enseignante de droit au collégial, candidate pour Québec solidaire dans l'Acadie. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler d'ici les élections du mois d'octobre, mais une réflexion drôlement intéressante dans la section « Faites la différence aujourd'hui » dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup.
Ben, grand plaisir. Merci à vous.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Aujourd'hui, le 17 juin, c'est ma dernière émission pour la saison, donc ma dernière rencontre avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec, Journal de Montréal, et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, je vais m'ennuyer de toi. Je pense que je vais t'appeler pendant l'été pour te dire « Hey, il se passe telle chose dans l'actualité, qu'est-ce que t'en penses? » On pourrait s'en jaser autour d'une tasse de café.
Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'on n'habite pas dans la même ville, parce que je pense qu'on irait souvent piquer des jasettes.
Oui, alors on le fait virtuellement. On le fait par la magie de la radio. Écoute, tu veux me parler de ces sinistrés du Saguenay qui ont tout perdu. Ça te touche une corde sensible parce que c'est de là que tu es originaire.
Oui, je suis originaire de là. Quand il y avait eu le fameux déluge en 1996, moi j'étais partie. En fait, j'allais terminer mes études, mais sauf qu'évidemment, j'ai suivi ça à distance, puis je suis allée voir après sur les lieux, tu sais, tous les dommages que ça a pu faire. Puis là, ben les sinistrés cette année à Saguenay le disent aussi, hein, que ça leur rappelle ces mauvais souvenirs-là, puis évidemment, c'est épouvantable ce qu'ils vivent, là. Tu sais, notre maison, l'endroit où on vit, quand on est propriétaire, c'est à peu près toute notre vie, là. Tu sais, c'est super important. Donc, d'imaginer que du jour au lendemain, on me demandait de quitter ma maison, puis que je saurais que je la reverrais probablement pas, parce que c'est ça qui est arrivé à des gens. Hein.
Absolument.
Des gens qui, dans la maison, est tombé, puis tout ce qu'ils ont pu récupérer, je disais ça cette semaine, là, c'était un petit bibelot en porcelaine d'un des enfants. Tu sais, c'est d'une tristesse sans nom, là, d'imaginer ce qu'ils peuvent vivre, ces gens-là. Puis en plus, dans les circonstances, tu sais, on voit... au niveau des assurances, il n'y a rien qui est couvert parce que c'est un sinistre. une catastrophe naturelle plutôt. Ouais.
C'est ce qu'on appelle Act of God. Hein. Je ne sais pas s'il y a une traduction française pour ça, mais en tout cas, quelque chose d'impondérable, d'imprévisible. Tu peux pas... donc, les assurances peuvent pas tout couvrir. Donc, c'est vraiment pas évident.
Non. Tu sais, on dit que le gouvernement, il doit se tourner vers le gouvernement parce que les assurances, en fait, ils couvrent pas les glissements de terrain quand il y a une catastrophe naturelle. Alors, il y a rien à faire contre ça. Tu sais, même si tu veux t'assurer au cas où que, parce que tu es dans un territoire où est-ce que il pourrait peut-être y avoir un glissement, ben c'est impossible. Donc, ces gens-là perdent beaucoup. Ils disent que l'indemnisation maximale, c'est 260 000, mais aujourd'hui, pour 260 000, ça, c'est si tu as accès à l'indemnisation maximale.
Ouais.
Ça, c'est pour le bâtiment, le terrain. Ça couvre pas grand-chose.
Puis en non, ça te couvre une porte puis deux fenêtres.
Ben c'est ça. Ça couvre vraiment rien, là. Puis, tu sais, en attendant, ils ont 20 $ par jour. Fait que je pense que ça fonctionne plus, là, 20 $ par jour.
T'es sérieuse?
Un café puis une toast. Oui.
C'est 20 $ par jour.
Oui, 20 $ dans le journal, par journée, pour manger. Et puis, on leur offre de les loger ou d'aller dans la famille. Mais avec tout ce qu'ils vivent en plus, ils doivent être dans un état psychologique assez précaire. Puis là, de pas être capable de subvenir à leurs besoins. Puis, ils disaient aussi que les assureurs, demandent quand même les paiements.
Alors, mais c'est hallucinant. Je ris pas de la situation. Je ris de l'outrecuidance et de l'arrogance des compagnies d'assurance. Quand vient le temps, là, de prendre ta police, puis quand vient le temps de prévoir tout ça, là, ils sont tout miel, tout sympathique, tout gentil, tout conciliant. Puis quand tu commences à faire des réclamations, là, ça devient, ils étaient des agneaux quand ils veulent avoir ton argent puis qu'ils veulent avoir ton contrat. Puis quand t'as un dommage, quand t'as un sinistre, ils deviennent des loups.
Oui, ben c'est parce que, tu sais, si t'es dehors de ta maison, que là, tu cours après ton argent parce que, bon, faut que tu manges, faut que tu te loges, puis qu'eux te demandent, exigent les paiements quand même, il me semble que ça manque un peu d'humanité, mais des fois... pas toujours très humain, hein, ces ouais. compagnies-là.
Et je veux juste revenir, Karine, parce que tu as dit le chiffre magique que je ne connaissais pas, là, le 20 $ par jour d'indemnité pour que les gens puissent se nourrir quand ils sont un cas comme ça où ils ne peuvent pas occuper leur maison, pas être sur leur propre toit. Je voudrais mettre ce 20 $-là en parallèle, si tu le veux bien, avec ce qu'on apprend sur Mary Simon, son voyage au Moyen-Orient, où elle et ses invités, son aéropage là, d'entourage, Anne-Caroline Desplanques a calculé que les dépenses sur l'avion de la Défense nationale, ça revient à 213 $ par repas. Parce que dans les repas qui ont été pris sur l'avion pendant le voyage, ça inclut des petits déjeuners, des lunchs et des soupers. Mais donc, tu as des gens qui ont vécu avec 600 $ par jour de repas. Puis pendant ce temps-là, tu as des sinistrés qui reçoivent 20 $ par jour. Je trouve que je ne sais pas pourquoi ces deux chiffres-là me frappent aujourd'hui, puis s'entrechoquent, puis ça tient pas debout.
Ouais, ben je pense qu'il y a une réflexion à y avoir sur ça, là, parce que des sinistres, des catastrophes naturelles, on n'arrête pas de dire qu'on va en avoir de plus en plus à cause des changements climatiques. Ben, je pense qu'il faudrait sans doute ajuster les indemnités qu'on leur donne, là, parce que franchement, le gouvernement provincial, là, il est plus à jour là-dedans. Là. Les besoins de subsistance, là, avec 20 $ par jour, quand on sait ce que ça coûte l'épicerie, tu sais, ça a jamais été aussi coûteux. Donc, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Puis, tu sais, on parle des sinistrés, mais par rapport à la météo là qui se joue au Saguenay, je sais pas pour Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de pluie aussi. Tu sais, on voyait, bon, il y a eu des orages hier soir qui ont fait des dommages un peu partout, mais à Québec, à Saguenay, c'est
oui,
fou,
partout
là, la pluie qu'on a. Puis je suis allée relever à Saguenay depuis le 1er juin, là, ce qui cause tout ça, là, c'est effectivement ce terrain-là. Ils ont eu, imagine-toi, 153,9 millimètres de pluie.
Ouch.
Depuis le 1er juin, alors que pour un mois entier, habituellement, ils en reçoivent 90 millimètres en juin. Puis la seule journée où la maison a décroché, là, qui est tombée à cause du glissement de terrain, ça c'est lundi, il y a eu 32,3 millimètres.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est pas les quantités qu'il y a eu lors du déluge, là, parce que quand on pense au déluge, tu sais, ça s'était passé surtout en 48 heures, les 19-20 juillet, ça avait été 170 à 200 mm d'eau en 48 heures. Fait que, tu sais, c'était pas le même phénomène. Si on avait dit que c'était une masse nuageuse qui était restée coincée à ce moment-là sur la réserve faunique des Laurentides, puis là, ben, ça avait causé tout ça. On appelait ça la virgule qu'on voyait là sur les radars. Bon, là, dans ce cas-là, c'est quand même pas autant de pluie, mais bon, c'est tout de même substantiel. Puis, t'sais, encore ce matin ici, il y a des averses épouvantables. Il y a eu des averses épouvantables. T'sais, on dirait qu'on ne sort pas de cette noirceur-là. Alors, c'est sûr que...
Ils y ont goûté, hein? On pourrait dire oui, ça comme ça. Ils y ont goûté et surtout, c'est comme quand tu as vécu un traumatisme, parce que disons-le, c'était ça. On se souvient tous de la petite maison qui avait comme résisté avec des torrents d'eau qui l'entouraient, qui la contournaient, et la petite maison qui a résisté au flot. Mais ça a marqué les esprits de tout le monde au Québec, mais ça a été vraiment un traumatisme pour les gens du Saguenay. Donc, on les salue et on les encourage de tout notre cœur. Écoute, Karine, tu voulais aussi nous parler... Bon, c'est quand même assez particulier. C'est la première fois, moi, que j'entendais parler de Saint-Ferdinand, un petit village tout simple qui aurait toutes les apparences d'un petit village tranquille. Ben non, des descentes, des perquisitions dans le centre du Québec parce que on soupçonne différentes personnes qui habitent là de faire partie d'un groupe néo-nazi... Il faut pas se fier aux apparences.
C'est particulier. Saint-Ferdinand, c'est tout petit au point que c'est à peine 2000 personnes qui habitent là. C'est dans le centre du Québec, proche de Thetford Mines, dans ce coin-là. Et donc là, ils ont la GRC a perquisitionné parce que, bon, selon ce que je disais dans la presse, là, ce serait une vidéo haineuse qui aurait été diffusée par eux. Et puis, bon, ils mènent des activités dans ce coin-là, dans des bâtiments désaffectés, une école, entre autres. Mais tu sais, imagine-toi les gens là dans ce petit village tranquille-là qui voient débarquer la GRC avec tout son équipement, ses camions. Ils comprenaient rien, les gens, là, puis... Puis c'est bizarre quand même qu'une organisation comme ça, parce qu'on parle de, excuse mon mauvais allemand, mais Atomwaffen, ça signifie arme nucléaire en allemand. Puis c'est un groupe extrémiste qui a des allégeances néo-nazies. Ça a été créé, on ne sera pas surpris, aux États-Unis en 2015. Puis officiellement, c'est supposé d'être dissous. Sauf que la GRC, entre autres, a trouvé quelques cellules qui étaient éparpillées. Bon, puis là, on en aurait une à Saint-Ferdinand. Et eux, leur but, dans le fond, c'est pas très rassurant, là, je te le dis tout de suite, là, c'est qu'ils considèrent que la société est corrompue. Puis ça, c'est au point où ils veulent la détruire. Pour la reconstruire à partir de leurs vidéos, là. Et puis ça veut dire que la société doit être dominée par les Blancs. Alors, imagine-toi, là. Quand même particulier. Là, ils ont fait des meurtres, ils ont fait des actes de vandalisme aux États-Unis. Donc, c'est pas un petit groupe banal. Là. Donc, je peux comprendre là, pourquoi la GRC s'inquiète et laisse pas passer ce genre de regroupement-là. Maintenant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils planifiaient. Hein. On en sait très peu. La GRC n'a pas été du tout volubile là-dessus. Donc ça, je m'interroge, on en saura probablement plus là, dans les prochaines semaines. Mais c'est drôle parce que dans la région de Québec aussi, on avait eu à l'ancienne Norette, qui est aussi un village, une petite municipalité. Ouais. L'année passée, la GRC aussi était intervenue parce qu'il y avait un individu qui possédait, là, c'était comme un arsenal.
Ah
là,
oui! Je me rappelle pas de ça.
Artisanal. C'est que, tu sais, des fois, on pense que c'est plutôt en milieu urbain, mais au contraire, tu sais, s'ils peuvent s'installer dans des petits endroits où ils sont moins surveillés, où ils sont plus à l'abri des regards, s'ils se tiennent tranquilles, relativement tranquilles, tu sais, les gens s'aperçoivent pas. Tu sais, d'ailleurs, c'était les témoignages des citoyens. Ils disaient, hier, quand la GRC est débarquée, ben, c'est une dame, là, qui vivait là, il élevait des chèvres. On n'a rien remarqué de particulier. Alors, quand tu sais ce qui pouvait peut-être se tramer, c'est très, très spécial, là.
Ben, surtout quand tu lis sur la philosophie de ce groupe-là, donc contre les différents groupes raciaux, les groupes ethniques, les groupes religieux. Et tu vois, je lis dans le journal ici, un des membres du groupe a déjà tué un jeune homosexuel juif de 19 ans après avoir participé à un camp de la haine. Allô, des camps de la haine. Si on regarde ça de façon plus large... Est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec, justement, pendant la pandémie, ça a exacerbé, tous les extrêmes, dans un sens comme dans l'autre, des gens qui ont été particulièrement isolés, qui se sont mis à développer toutes sortes de théories plus capotées, plus loufoques les unes que les autres. Est-ce qu'on peut remettre ça dans ce même contexte-là?
Ah, moi, je pense que oui, je pense que c'est lié, là, tu sais, tous les... Ça a exacerbé plein de frustrations les gens isolés, justement, qui se sont plus regroupés sur les réseaux sociaux, qui ont créé des liens, qui se sont mis à en vouloir au monde entier, là, pour ce qui se passait, à dire qu'on était, nous, qui suivions des règles, des moutons. Donc, tu sais, c'est un peu ça, là. Eux, ils trouvent que la société, ça a pas de bon sens, qu'il faut la détruire, la refaire. Moi, je suis persuadée qu'il y a un lien dans la, tu sais, dans toute forme de radicalisation, là, ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi, on voit que ça a été exacerbé. Puis on sait pas, là, tu sais, qu'est-ce qui les animait exactement et tout, et qui était là-dedans, mais je suis persuadée qu'il y a un lien à faire avec tout ça, là.
Alors, quand tu penses que dans la vie, tout le monde est des moutons, tu t'en vas élever des chèvres à Saint-Ferdinand. Mon Dieu, écoute, la façon dont tu nous racontes ça, puis les témoignages qu'on voit, il me semble que c'est le début d'un film américain sur l'apocalypse. Tu sais, t'as un petit village perdu, t'entends les bruits de criquets, puis là, t'as une petite madame là, qui élève ses chèvres, puis là, tout d'un coup, l'armée débarque. Avec les armes, les gilets pare-balles et tout, le SWAT team qui débarque. Puis là, on découvre que c'est une complotiste à la tête. Non, mais je dis pas que c'est le cas dans ce cas-ci, mais cette description-là pourrait avoir l'air du début d'un film avec Tom Cruise ou je sais pas.
Complètement. Complètement. C'est un peu ça que le maire de Saint-Ferdinand, c'est un ancien journaliste en passant.
Ah oui?
Oui, Yves Charlebois, il disait que c'était complètement surréaliste. Tu sais, t'avais un monsieur qui tondait sa pelouse ici, là, qui était en face, puis qui a vu débarquer la GRC avec tout son arsenal. Tu sais, on voit des photos dans le journal, c'est quand
même c'est
rien,
spécial.
Là, ils sont habillés comme des militaires armés, puis tout ça. Dans ton petit village, là, je pense que ça a dû jaser leur journée, passablement.
Ils se souviendront longtemps du 16 juin 2022. Écoute, moi, je pense qu'il faudrait déjà choisir qui va jouer le rôle de la dame qui élève des chèvres. Moi, je propose Julia Roberts. Je sais pas toi ce que t'en penses, là. Mais il me semble que, tu sais, pas maquillée avec les cheveux un peu défait, parce qu'elle est capable de se transformer beaucoup de Julia Roberts. Alors, Tom Cruise et Julia Roberts dans un film Scandale à Saint-Ferdinand, bientôt sur vos écrans. Karine?
Écoute, on s'appelle pour élaborer le scénario. Ça peut être payant, ça.
Oh oui. Écoute, je suis déjà, tu sais, j'avais déjà proposé à un moment donné à Félix Séguin d'écrire un scénario avec lui sur l'histoire. Tu sais, les deux Québécoises qui avaient été impliquées dans un trafic de cocaïne, là, qui étaient parties en croisière. Elles avaient fait le tour du monde, finalement. Elles se sont fait pogner en Australie. Et elles ont passé plusieurs années en prison. Là, je pense qu'il y en a même une qui est encore en prison. Je me souviens plus des détails, mais bref, j'avais dit à Félix, on s'écrira un scénario de film là-dessus, parce que Hollywood, c'est sûr, va s'intéresser à ça. Alors donc, peut-être, Karine, toi et moi, on écrira un scénario sur Saint-Ferdinand. Merci pour cette belle saison, Karine. Ça a été super chouette. Puis on salue les gens qui nous ont envoyé des commentaires positifs sur les médias sociaux. Puis ceux qui nous ont envoyé des commentaires négatifs, on vous souhaite de passer un excellent été et on vous retrouvera bientôt.
C'est une très belle opportunité. Ça a été vraiment un grand plaisir. Puis bon été à tous et à toi, Sophie.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Quand on a souligné les 400 ans de Québec, un des événements les plus marquants, ça a été le fameux moulin à images de Robert Lepage. C'est projections de toutes sortes sur les silos. C'est vraiment, ceux qui l'ont vu en gardent un souvenir ému. Ça a été présenté quand même de 2008 à 2012 et 10 ans plus tard, il y a un hommage justement au Moulin à images qui est présenté au Diamant, donc ce magnifique théâtre, lieu de spectacle à Québec. Et cet hommage, il est fait par l'artiste peintre Jean Gaudreau. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Gaudreau.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ben moi, ça va très bien. Pourquoi c'est important pour vous de rendre hommage en peinture comme ça à la création de Robert Lepage?
Bien, premièrement, moi, comme artiste peintre, j'étais un des artistes choisis en 2019. C'est-à-dire en 2009-2010, j'étais de ces projections, en fait, là. Ça avait commencé en 2008 jusqu'en 2012. Donc, 2009-2010, j'étais dans le Moulin, en fait, là. On était quelques artistes peintres. Et puis, pour moi, ben, je trouvais, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, que c'est une fresque historique extraordinaire, en fait, qui soulignait le 400e anniversaire de la ville de Québec. Alors, pour moi, de rendre hommage au Moulin, parce qu'en fait, ça va faire 15 ans, là. En fait, là, c'est le 15e anniversaire qui souligne, de le rendre en peinture, pour moi, c'est important parce que c'était tellement important pour la ville de Québec avec toutes les images qui avaient été quand même sélectionnées au premier plan, qui relataient, en fait, toute l'histoire de la ville. Ben, pour moi, c'était quand même assez pertinent. Et puis, comme le Diamant a été construit déjà deux, trois ans, il y avait quand même un mur intéressant pour recevoir de tels tableaux. Là. Donc, pour moi, il y avait comme un peu un match parfait, là, d'autant plus que j'avais en tête déjà depuis quelques années de rendre hommage à cette magnifique projection là, par le biais de mes œuvres.
Oui. Pour ceux qui l'ont pas vu, parce que moi, j'en garde un souvenir vraiment ému, c'était époustouflant. Et j'ai fait une entrevue récemment avec Régis Labeaume, qui va être diffusée bientôt sur les ondes de Cube Radio. Et on était d'accord pour dire, dans la ville de Québec, il y a vraiment avant les festivités du 400e et le après. Qu'est-ce que vous diriez que ça a changé les célébrations du 400e et en particulier le Moulin à images pour la ville de Québec?
Ben moi, je pense que ça l'a démontré, moi je pense, le Moulin à images, que la ville de Québec était capable de tenir des événements extraordinaires je pense que le Moulin a été vu par des gens là, partout dans le monde, et puis même on en parle encore 15 ans plus tard, il n'y a personne qui a oublié ça, comme vous le dites. Et puis moi, je pense que qu'est-ce que ça a pu changer? Moi, je pense que ça l'a donné, si on veut, comment je peux bien dire? Donc moi, je pense que ça l'a donné vraiment, ça l'a mis quand même Québec vraiment... Ça lui donnait un éclat extraordinaire à la ville de Québec. Tu sais, ça lui donnait vraiment des étincelles.
Une fierté?
Une fierté, oui. Oui, absolument. Ça a donné une fierté. Puis tu sais, Robert, ben, je pense que les gens le savent. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un créateur vraiment fantastique. Et puis, je pense que ça s'est passé dans la ville de Québec. Et puis, ça a attiré quand même l'attention de beaucoup de monde dans le monde entier. Tu sais. Puis, les gens accouraient pour venir voir le Moulin. Le lion lui-même le voyait plusieurs fois. Donc, moi, je pense que ça a donné, oui, effectivement, une fierté à la ville de Québec. Et ça l'a mis aussi, je dirais pas Québec sur la map, mais ça l'a pas nuit du tout parce que les gens adorent la ville de Québec. Hein. C'est la ville de Québec, c'est pour moi une des plus belles villes au monde. Je suis peut-être pas très impartial, je viens de la ville, mais même il y a des gens beaucoup de l'extérieur qui le disent. Puis je pense qu'avec un événement comme ça en 2008 qui a commencé, ça l'a vraiment, c'est venu vraiment là, ancrer encore plus ça, là, que c'est tellement exceptionnel. Donc je pense que ça l'a donné, oui, une immense fierté à la ville de Québec. Tu sais.
Alors, dans un de vos tableaux en hommage au fameux Moulin à images, on voit dans un coin, semble-t-il, parce que je les ai pas vus, vos tableaux, mais je lis des textes qui en parlent, on voit l'ancien cinéma de Paris, et c'est là, le Diamant, là, qui est un endroit absolument magnifique, hein, d'un point de vue architectural, c'est une réussite totale, c'est là où il y avait, à l'époque, le cinéma de Paris. Donc, c'est un petit clin d'œil que vous faites, là, pour rappeler, en fait, une continuité aussi dans l'histoire de la ville de Québec.
Oui, carrément, parce que moi, dans ces cinq tableaux-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relaté, en fait, les quatre chemins les plus importants qu'il y avait dans le moulin image. En fait, le chemin d'eau, le chemin de terre, le chemin de fer et le chemin d'air. Et aussi un autre tableau en fait, qui relatait, en fait, trois grands peintres de la modernité qui étaient représentés dans le moulin image. Alors, en effet, comme le cinéma de Paris, qui fait partie de l'histoire de la ville de Québec, le cabaret, entre autres, chez Gérard. Donc, moi, j'ai été chercher, en fait, des images que je jugeais les plus importantes, les plus pertinentes, parce que je pouvais pas tout prendre les images, parce qu'il y en avait trop, mais sauf que j'ai été chercher les plus importantes, et puis c'est une façon un peu narrative, la façon que j'ai présenté dans mes tableaux, parce que je tenais compte, en fait, là, j'ai visionné plusieurs fois le film du moulin à images, donc quand on parle du chemin d'eau, ça commençait comme ça. Alors moi, j'ai pris les images les plus importantes et puis je les ai mis en peinture. Donc c'est devenu, c'est des immenses tableaux en fait. Là, on parle de tableaux de 6 pieds par 12 pieds.
Oui.
C'est un peu ça que j'ai fait en gros là, dans les cinq tableaux. Là.
Alors on va pouvoir
transmettre cette présence-là. C'est
oui,
ça.
On va pouvoir aller voir ça. Ben, on peut déjà aller voir ça donc dans le théâtre, dans la salle de spectacle multifonctionnelle Le Diamant. Merci beaucoup Jean Gaudreau d'être venu nous raconter tout ça aujourd'hui et de nous rappeler le souvenir de ce moment vraiment inoubliable qu'a été le moulin à images de Robert Lepage pour le 400e d'une ville que j'adore, Québec, et on salue tous les gens de Québec. Merci beaucoup, M. Gaudreau.
Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.
Merci.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
On entend beaucoup parler, bien sûr, au cours des dernières semaines, des derniers mois, et je dirais même au cours des dernières années, d'enfants qui, au sein de la société québécoise, sont la cible d'abus de toutes sortes. Les enfants de la DPJ, des enfants, bon, qui ont été maltraités, qui ont vécu des traumatismes. Quelles sont les conséquences pour ces enfants-là, pour ces adolescents-là, et comment, comme adulte, on peut prévenir ça ou comment on peut entourer de bienveillance les enfants et les adolescents qui sont la cible de ces abus-là. On va parler tout ça avec Marie-Ève Grisé-Bolduc. Elle détient une maîtrise en psychoéducation et elle est aussi auteure du livre 10 questions sur le trauma complexe chez les enfants et les adolescents. Madame Grisé-Bolduc, bonjour.
Bonjour.
Peut-être qu'une première question qui va peut-être vous paraître naïve, mais peut-être que les auditeurs se la posent, cette question-là. C'est quoi la différence entre un trauma et un trauma complexe?
Bon, c'est une excellente question. Donc, parfois, là, dans la littérature, on va référer à des traumas simples versus des traumas complexes. Donc, les traumas simples, ça va davantage être des traumas qui vont être isolés dans le temps. Donc, un événement qui va se produire, ça peut être, par exemple, un accident ou une catastrophe naturelle. Alors que quand on parle de traumas complexes, on est plus dans des traumas qu'on dit interpersonnels. Donc, des traumas qui se vivent au sein même de relations significatives que les personnes vont entretenir avec leur entourage. Donc, on peut penser, par exemple, à des situations de maltraitance, où l'intégrité physique ou psychologique va être menacée, donc de l'abus physique, de l'abus sexuel, du dénigrement, de l'humiliation, de l'abandon, de la négligence, etc., etc. Et quand on vit ces situations-là de façon chronique et répétée, donc ce n'est pas nécessairement isolé dans le temps, comme je vous disais tantôt pour le trauma simple, là. Donc quand c'est vécu de façon chronique et répétée, ça peut mener à des conséquences qu'on dit complexes parce qu'elles sont variées, multiples, elles touchent différentes sphères de développement là, des personnes qui les vivent, là, les jeunes, là, les enfants, les adolescents, etc.
Est-ce qu'on s'en remet Je sais que la question peut avoir l'air trop simple par rapport à un enjeu aussi complexe, justement, mais est-ce qu'on s'en remet? C'est-à-dire que quand on est bon lecteur de journaux, on écoute la radio, la télé, puis on entend parler d'un enfant qui a été victime d'inceste ou qui a été battu, qui a été... On se dit, ben, cet enfant-là, cet adolescent-là est brisé. Est-ce qu'on arrive à les remettre tous les morceaux ensemble ou pas?
C'est possible, absolument. C'est important de noter que c'est pas tous les jeunes qui ont vécu des traumas qui vont vivre des conséquences complexes. Il y a une chose qui est claire, le rôle des personnes qui entourent ces jeunes-là, il est d'une importance capitale. Donc, la résilience des jeunes, elle est prédite, entre autres, par une relation de qualité avec des pères ou des adultes, que ce soit un enseignant, un parent, un membre de la famille élargie, peu importe. Donc, cette information-là, elle est essentielle parce qu'elle nous permet de saisir l'influence puissante des relations dans l'accompagnement des jeunes vers la guérison de leurs blessures traumatiques. Donc, oui, c'est possible de guérir en quelque sorte de ces traumatismes-là, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours facile et que le processus de guérison, il est toujours linéaire. Hein?
Bien
Donc,
sûr.
Donc, voilà.
Ça doit être un petit peu pas mal beaucoup en montagne russe. Vous nous avez dit que ce ne sont pas tous les jeunes qui sont victimes d'abus ou de maltraitance qui vont développer des traumas complexes. Donc, ça veut dire que selon la constitution de l'individu, il y en a qui, j'hésite à utiliser cette expression-là, mais qui vont réagir mieux que d'autres, qui vont être moins impactés que d'autres.
Effectivement. Donc, tu sais, ça peut être lié à différents facteurs, comme par exemple, comme je le disais tantôt, là, comment l'enfant, le jeune va être entouré après avoir vécu des traumatismes ou de la maltraitance. Ça va être un facteur très important là pour la guérison et pour influencer positivement le développement et le parcours de ces jeunes-là. Ouais.
Alors, quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les conséquences de la maltraitance quand un enfant est victime soit d'abus physiques, d'abus sexuels, d'abus psychologiques? Les conséquences les plus courantes et les plus frappantes, c'est quoi?
Les plus courantes, les plus frappantes, on va souvent le voir à travers les comportements qu'ils vont présenter. Donc, ça peut être des jeunes qui vont avoir des comportements très réactifs ou au contraire des comportements très passifs ou une variation entre les deux selon le contexte, les situations ou les interactions qu'ils vont avoir avec autrui. Donc, ça va souvent se refléter dans les comportements. Ça va aussi beaucoup se refléter dans les relations interpersonnelles. Donc, c'est des jeunes qui ont été blessés dans des relations. Donc, nécessairement, ça va se refléter ensuite dans les relations aussi. Donc, ça peut être des relations qui vont être plus conflictuelles, chaotiques ou au contraire, des relations très déconnectées ou voire même détachées. Des difficultés aussi sur le plan identitaire, donc des jeunes qui peuvent intérioriser une vision très négative d'eux-mêmes en raison du regard qui a été posé sur eux par des adultes, soit abusifs ou négligents. Donc, ils peuvent se percevoir comme étant nuls, sans valeur, voire endommagés. Ils peuvent se voir comme indignes d'être aimés, sans intérêt. Donc, ils peuvent avoir tendance à croire qu'ils sont foncièrement mauvais. Parce que c'est la seule raison que leur esprit mature va trouver pour comprendre pourquoi ils ont été victimes de mauvais traitements. Donc, ils peuvent penser qu'ils méritent ce qui leur est arrivé. Ils peuvent se sentir honteux ou coupables des expériences traumatiques qu'ils ont vécues. Ils peuvent aussi percevoir le monde extérieur comme étant dangereux. Ça peut diminuer leur opportunité de vivre des expériences nouvelles, enrichissantes. Donc, des difficultés aussi sur la régulation émotionnelle, des conséquences sur le fonctionnement du cerveau, etc., etc.
C'est vraiment, il y a une longue liste. Une chose qui me frappe dans ce que vous venez de dire, parce que je trouve ça d'une tristesse inouïe, des enfants qui auraient été maltraités ou victimes de négligence et qui ont tellement intériorisé les propos ou les comportements à leur égard qu'ils pensent qu'ils le méritaient. Qui méritait d'être abusé ou méritait d'être frappé ou mon Dieu, c'est tellement triste.
Oui, effectivement. Donc, faut vraiment venir accompagner ces jeunes-là, puis un peu faut les valoriser leurs forces, faut leur montrer comment en fait ils ont des qualités, ils ont des compétences pour venir un peu renverser la vapeur, si on peut dire. Donc leur faire confiance aussi, leur donner l'opportunité de faire des choix, parce que malheureusement ils ont subi des événements dans leur vie sans avoir l'opportunité de faire des choix. Donc faut leur donner l'occasion d'en faire maintenant pour qu'ils reprennent un certain contrôle sur leur vie là.
Est-ce que l'âge fait une grande différence? C'est-à-dire, est-ce que plus les traumatismes ou la maltraitance a eu lieu quand l'enfant était jeune, les conséquences sont plus graves? Parce que, bon, on l'a tous entendu, cette théorie-là ou cette idée-là, que tout se joue avant 6 ans. Donc, ouais. Si les traumatismes ont eu lieu avant 6 ans, est-ce que les conséquences sont plus graves que si elles ont lieu plus vieux ou à ce moment-là, l'impact est moindre?
Oui, c'est une excellente question. Il y a certaines périodes qu'on dit qui sont sensibles par rapport au développement. Donc, c'est sûr que plus l'enfant est jeune, plus les conséquences pourraient être importantes, mais en même temps, l'enfance et l'adolescence, c'est des périodes sensibles aussi. Donc, selon l'âge où les expériences vont être vécues, ça peut avoir des conséquences différentes. Donc, on peut pas répondre oui ou non à cette question-là, c'est un peu plus subtil que ça. Je pense qu'il faut garder en tête que tant l'enfance que l'adolescence, c'est des périodes de développement où on est vulnérable, donc ça peut avoir un impact, là, même si on a plus de 6 ans, par exemple, ça peut avoir un impact majeur quand même. Mais c'est sûr que plus on est jeune, plus on est vulnérable aussi, donc il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Faut vraiment être sensible là, au fait là, que tant l'enfance que l'adolescence ou les moments où on va vivre ces expériences-là, ça peut avoir un impact là.
Ouais. Comme adulte, quand on gravite autour de ces jeunes-là, quel devrait être notre comportement, que ce soit quand on est un professionnel ou quand on est simplement ouais. quelqu'un qui côtoie un jeune qui a été victime d'abus de négligence?
Bon, c'est sûr que les jeunes qui ont vécu la maltraitance et des traumas, là, on comprend qu'ils ont pu vivre dans un environnement chaotique, imprévisible. Ça peut avoir favorisé un sentiment de danger qui est omniprésent, si on peut dire. Donc, qu'est-ce que les adultes peuvent faire, donc les enseignants, les intervenants, les familles d'accueil, les éducateurs? Ben, l'idée générale, c'est d'offrir un environnement qui va être bienveillant. On veut leur offrir un havre de paix, si on peut dire, un sanctuaire, un endroit où ils vont se sentir en sécurité et où ils vont pouvoir enfin se déposer. Il faut donc favoriser des interventions ou des interactions qui vont être bien sûr marquées par la bienveillance, la sensibilité, la disponibilité, plutôt que d'être dans une approche plus punitive, coercitive ou contrôlante.
Ouais. En même temps, vous dites ça. Et bon, c'est dans certains cas, c'est peut-être possible. Mais quand on est, par exemple, un professeur, un éducateur, ben il y a des fois où on doit faire de la discipline, où on doit être dans justement la punition s'il y a un comportement qui vient ralentir le groupe, comme on dit. Comment on fait? Est-ce qu'on doit avoir forcément un comportement toujours dans la ouate et dans la bienveillance avec ces jeunes-là? Est-ce que c'est conciliable? Ouais. Est-ce que les deux positions sont conciliables?
Absolument. On veut être bienveillant, on veut offrir, comme je disais, un havre de paix, un sanctuaire. Mais c'est sûr que si des comportements problématiques sont présents, on ne va pas tout accepter. Donc, c'est normal parfois d'appliquer certaines conséquences qui vont être naturelles, qui vont être logiques. Toutefois, il faut beaucoup axer aussi sur la régulation émotionnelle des jeunes. Donc, s'ils présentent ce type de comportement-là, peut-être que c'est le signe qu'ils présentent une dérégulation émotionnelle. Donc, avant là, d'intervenir et d'imposer des conséquences, peut-être qu'on peut accompagner le jeune pour l'aider à se réguler. Donc, juste aussi, nous, de se mettre comme adulte dans une posture de régulation émotionnelle, ça peut le jeune aider le jeune à se réguler lui-même. Parce que c'est sûr que face à des comportements qu'on peut juger difficiles, nous, comme adultes, on peut réagir à ces comportements-là. Et là, ça peut mettre de l'huile sur le feu. Donc, de prendre soin de soi comme adulte, de prendre soin de sa propre régulation émotionnelle, déjà, ça nous met là dans une posture où ça va aider le jeune à se réguler lui-même. Donc, voilà. Donc, on veut aussi beaucoup miser sur l'éducation, sur les traumas puis les conséquences des traumas. On veut que les adultes qui gravitent autour des jeunes soient bien au fait de c'est quoi un trauma, ça peut être quoi les conséquences pour pouvoir mieux y répondre. Et voilà, on veut soutenir les jeunes dans leur régulation, on veut connecter avec eux. On veut les accompagner à reconnaître leurs émotions, on veut valider leurs états émotionnels, on veut les encourager là, à utiliser différentes stratégies de régulation émotionnelle.
Ben écoutez, ce sont tout ça des bons conseils et le mot-clé, évidemment, la bienveillance. Marie-Ève Grisé-Bolduc, vous êtes auteure du livre « 10 questions sur le trauma complexe chez les enfants et les adolescents », donc un livre important pour tous les gens qui gravitent autour de ces jeunes-là, mais aussi pour la population en général. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Ben, merci à vous, c'est un grand plaisir.
Merci, et c'est comme ça que se termine l'émission. Ben oui, la dernière de la saison régulière. Parce que là, vous allez être entre les mains de il va y avoir Alexandre Moranville, Yasmine Abdel Fadel, il va y avoir Patrick Derry, il va y avoir Vincent Dessureau. Écoute, ça arrête plus, là. Il y en a des bons animateurs cet été. Moi, ça va être ma dernière journée pour l'instant. On se retrouve dans 10 semaines. Je veux remercier avec beaucoup d'effusion Jean-François Roy, qui a été mon collègue à la réalisation de la mise en onde pour les dernières semaines. Également, une toute jeune, mais très efficace équipe de recherche. Ça va de Florence Lamoureux à Charlotte Duquette en passant par Frédéric Houle. Tout ça chapeauté par notre collègue Jean-Nicolas Gagné. Merci beaucoup, 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 beaucoup à vous, les auditeurs, les auditrices. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir été présent. Merci d'avoir choisi Cube et en espérant qu'on se retrouve tout le monde en santé sans rien qui finit par le chiffre 19. On va se retrouver le 29 août. Merci beaucoup d'avoir été là.
Cube Radio.